Vous écoutez, on lit pour vous.
Parentalité et immigration. Naviguer les ajustements nécessaires. Un texte de Gabriel Audet-Michaud, paru le 10 juin 2024 dans Le Franco, en Alberta. Être parent immigrant signifie parfois de devoir ajuster ses méthodes parentales aux normes et aux lois du pays d'accueil. Pour aider les nouveaux arrivants à travers ce processus confrontant, le portail de l'Immigrant Association, PIA, en collaboration avec l'Association des juristes d'expression française de l'Alberta, AJEFA, a offert récemment un atelier sur les droits des enfants et l'éducation positive au Canada. Les familles qui arrivent ici n'ont pas toujours connaissance du système juridique et parfois les méthodes qu'elles utilisent pour corriger leur enfant, malgré leur bonne foi, ne conviennent pas au contexte canadien, résume Donald Ngepi Ndongo, coordonnateur du programme des travailleurs en établissement dans les écoles, TEE, au PIA. Présenté devant une trentaine de participants, l'atelier avait pour objectif de décortiquer les lois canadiennes en matière de droits des enfants et de déterminer comment intégrer ces concepts dans la vie quotidienne des familles nouvellement arrivées en Alberta. Sans négliger d'évoquer les composantes culturelles qui peuvent évidemment avoir une influence sur l'éducation et les méthodes disciplinaires, précise-t-il. Il y a des choses que l'on perçoit différemment quand on vient d'ailleurs. Les immigrants issus de pays africains ont notamment tendance à opter pour des stratégies plus fermes dans l'éducation de leurs enfants, souligne André Nguini, un père de famille d'origine camerounaise. On vient d'un environnement où il y a une tolérance par rapport à la manière de discipliner nos enfants. Alors notre fermeté se manifeste parfois par la correction corporelle pour faire comprendre à l'enfant quelles sont les limites, explique-t-il. Adapter son modèle parental. Les informations recueillies lors de cette présentation en ligne lui ont toutefois permis de réfléchir à une nouvelle approche, davantage en conformité avec les lois et valeurs canadiennes, sans pour autant dénaturer sa vision parentale. Pour rappel, bien que la question demeure controversée, les châtiments corporels sont toujours permis au Canada sous certaines conditions. La fessée, par exemple, est tolérée en vertu de l'article 43 du Code criminel, à condition que la force utilisée ne dépasse pas la mesure du raisonnable. Cependant, les gifles, les coups à la tête et les punitions avec des objets tels qu'une ceinture sont interdits. De plus, les adolescents et les enfants de moins de 2 ans ne peuvent pas être punis corporellement. Il faut éduquer en respectant les lois du Canada qui ne sont pas mauvaises et visent à assurer la protection des enfants. Et en même temps, il faut garder une éducation ferme, car c'est un modèle auquel on croit énormément, souligne André Nguini. Une opinion que partage en partie une autre participante, Rita Mefo. L'Afrique et le Canada, c'est très différent. Je pense que c'est important d'avoir ce genre d'atelier pour expliquer aux parents immigrants pourquoi ça vaut la peine d'utiliser la parentalité positive plutôt que la force pour discipliner leurs enfants. Cette étudiante en intervention en travail social et mère de famille affirme avoir effectué un virage complet dans son approche parentale depuis qu'elle est établie en Alberta. Parce que j'ai eu ce modèle d'éducation par la réprimande, moi, personnellement, j'avais l'habitude de crier lorsque mon enfant faisait une bêtise. Mais ce n'est pas bon, car l'enfant se braque en réponse, indique-t-elle. Au Cameroun, son pays d'origine, la correction corporelle peut également passer, rappelle-t-elle, par l'utilisation du fouet, une pratique qu'elle reconnaît aujourd'hui comme pouvant avoir de graves impacts psychologiques, notamment sur l'estime de soi et la confiance envers autrui. Des propos rassurants. À l'opposé, les familles qui tardent à s'ajuster aux lois canadiennes pourraient avoir des problèmes avec des agents de la protection de la jeunesse, explique Christina Wallace, une avocate d'Edmonton, membre de l'AJEFA, qui animait l'atelier offert conjointement avec le PIA. L'objectif, c'est que l'information offerte circule au sein de la communauté afin de prévenir des situations où des parents perdraient temporairement la garde de leurs enfants. C'est de la prévention, précise-t-elle. Malgré ces mises en garde, l'avocate se veut rassurante quant au mode d'intervention pratiqué auprès des enfants en Alberta qui se veut au service des familles afin qu'ils retrouvent une stabilité. Ce que le directeur de la protection de la jeunesse essaie de faire, c'est d'offrir des services psychologiques et s'assurer que la famille fasse les changements nécessaires pour qu'elle puisse rester intacte et se reconstruire de manière saine, mentionne-t-elle. Cependant, elle ne nie pas qu'une certaine crainte demeure parmi les communautés ethno-culturelles qui ont parfois l'impression qu'on cherche à les prendre à défaut et leur enlever leurs enfants. C'est une réelle peur. Ils connaissent des cas où le gouvernement est venu chercher les enfants. Nous, ce n'est pas notre avis. On rappelle que le système intervient seulement de cette manière s'il y a de gros problèmes à la maison, ajoute-t-elle. André Nguini a été très rassuré d'entendre la juriste parler du système avec autant d'enthousiasme et de franchise. C'est bien d'entendre les vrais faits. On avait peur en arrivant. Il y avait ce préjugé que le gouvernement pourrait nous enlever notre enfant. C'est quelque chose qui a beaucoup impacté la façon d'encadrer et d'éduquer notre enfant dans la dernière année, conclut-il. C'était Parentalité et immigration, naviguer les ajustements nécessaires. Un texte de Gabriel Audet-Michaud, paru le 10 juin 2024 dans Le Franco, en Alberta.
Les campus universitaires satellites se multiplient au Québec. Un texte de Zachary Goudreau, paru le 27 juin 2024 dans Le Devoir. Davantage de campus secondaires d'universités ont vu le jour au Québec dans les 4 dernières années qu'au cours des 20 années précédentes, a constaté Le Devoir. Une situation qui témoigne de l'intérêt croissant de ces établissements à réduire la barrière de la distance qui persiste dans l'accès à des études supérieures pour nombre de Québécois. Les experts sont toutefois divisés sur la pertinence de la multiplication de ces campus satellites à travers la province. Lors de la création du réseau de l'Université du Québec à la fin des années 1960, l'une de ses visées premières était de rendre les études universitaires accessibles au plus grand nombre de Québécois possible. Aujourd'hui, les 17 campus principaux des 18 établissements universitaires de la province, l'Université TELUC étant entièrement en ligne, sont répartis dans 8 régions du Québec. Des milliers d'étudiants des 9 régions de la province sans campus principal doivent donc parcourir de longues distances, généralement en voiture, pour se rendre à leurs cours ou encore louer un appartement dans des villes comme Montréal, Québec, Trois-Rivières ou Sherbrooke. Des obstacles qui en découragent plusieurs, en témoignent des chiffres publiés en 2023 par l'Institut de la statistique du Québec, ISQ. Dans son panorama des régions du Québec, l'ISQ, qui se base sur les données du recensement de 2021, constate que 33 % des Québécois de 25 à 64 ans détiennent un certificat, un diplôme ou un grade universitaire. Ce pourcentage atteint 50 % sur l'île de Montréal, mais chute à 21 % dans Lanaudière, l'une des régions du Québec où ce taux est le plus bas, aux côtés de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, 18 % de la Côte-Nord, 17 % et du Nord du Québec, 13 % Les résidents des régions hors des grands centres doivent souvent parcourir de longues distances ou s'exiler pour réaliser des études universitaires. Ce sont d'ailleurs 45 % des diplômés au baccalauréat dans Lanaudière en 2017 qui avaient obtenu leur diplôme à l'Université de Montréal ou à l'Université du Québec à Montréal, UQAM. Or, as-tu le goût de te taper 2 heures de route par jour pour aller étudier à Montréal après la pandémie qui t'a habitué à rester chez vous? Non. lance l'ancienne présidente de la commission d'évaluation de l'enseignement collégial Céline Durand en référence aux étudiants de Lanaudière. Égalisation des chances. Afin d'offrir l'accès à une éducation universitaire dans des régions éloignées de la ville où elles ont initialement vu le jour, des universités ont mis en place au fil des années des sites de formation destinés à enseigner quelques programmes, souvent dans des locaux loués à des cégeps. Le nombre de ces petits points de service a toutefois connu une baisse marquée entre 2008 et 2021, passant de 234 en 2010 à 132 à l'automne 2021, montrent des données du Bureau de coopération interuniversitaire, BCI. En contrepartie, une dizaine de campus secondaires qui offrent une plus grande variété de programmes ont vu le jour ou ont été annoncés depuis 2020 dans plusieurs régions du Québec, a constaté Le Devoir en contactant l'ensemble des universités de la province. Il s'agit d'un nombre important, considérant qu'à peine 6 campus secondaires avaient vu le jour entre 2008 et 2021, comme en témoignent des données du BCI. Il y a eu un accroissement des campus avec un lieu physique, relève le professeur Pierre Doré du département de sociologie de l'UQAM. Ce dernier constate que les universités ne se contentent désormais plus de louer des locaux à des cégeps pour desservir diverses régions. Elles ouvrent plutôt des campus à part entière dans des bâtiments distincts, loués ou construits à cette fin, où l'on offre généralement une plus grande variété de programmes. Ça a favorisé une égalisation des chances, résume ce spécialiste de l'accès à l'enseignement post-secondaire. Luc Bernier, titulaire de la chaire Jarislowski sur la gestion dans le secteur public à l'Université d'Ottawa, rappelle cependant que plusieurs de ces campus secondaires n'offrent pas tous les services que l'on trouve généralement dans une université, tels qu'une bibliothèque, un centre sportif ou un laboratoire. Il y a un appauvrissement de la qualité de l'enseignement, selon moi, dans ces campus satellites à l'autre bout du monde, lance le professeur. Je ne suis pas convaincu que c'est ça la solution du taux de diplomation en région, poursuit M. Bernier, qui se demande si c'est pour le bien de l'université ou pour le bien des étudiants qu'on fait ça. Vous écoutez « Les campus universitaires satellites se multiplient au Québec », un texte de Zachary Goudreau, paru le 27 juin 2024 dans Le Devoir. Des besoins criants. À Lanaudière, l'Université du Québec à Trois-Rivières, UQTR, offrait depuis des décennies des cours dans des cégeps de la région. Depuis 2021, elle a toutefois ouvert 3 campus à Terrebonne, Joliette et L'Assomption afin d'y faire converger tous ses étudiants dans la région et de disposer de suffisamment de locaux pour en accueillir des centaines d'autres ces prochaines années et répondre à la demande croissante. Même si le campus est petit, ça leur permet d'avoir une identité universitaire qui leur est propre, relève le recteur de l'UQTR, Christian Blanchette, en référence aux étudiants de la région qui n'auront plus à suivre leurs cours à l'université dans un cégep, mais plutôt dans un véritable campus. Je pense que ça, c'est important, afin de rendre les études universitaires attrayantes pour les jeunes de la région, pour qui la distance des universités montréalaises peut représenter une barrière difficile à franchir, illustre M. Blanchette. Pour sa part, l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, UQAT, procède actuellement à la construction d'un campus à Mont-Laurier, où elle offre des cours depuis une vingtaine d'années. Or, la simple location de locaux n'est plus suffisante pour répondre aux besoins croissants des étudiants de cette ville des Hautes-Laurentides, explique le recteur de l'UQAT, Vincent Rousson. Le milieu nous a adoptés, donc on s'est implanté progressivement. Et aujourd'hui, on est rendu à un moment dans notre histoire dans les Hautes-Laurentides où on avait besoin d'infrastructures, d'où la création d'un campus, souligne-t-il en entrevue, tout en précisant que ce projet sera en partie financé par le gouvernement du Québec. Malgré la création de ce campus, l'UQAT continuera d'ailleurs à louer des locaux au centre-ville de Mont-Laurier, ainsi que dans le campus du Cégep de Saint-Jérôme, situé dans cette ville, parce que notre effectif étudiant ne cesse de croître. D'ailleurs, la construction du campus n'est même pas terminée qu'on prépare déjà une phase 2 d'agrandissement à Mont-Laurier, confie M. Rousson. Ce sont par ailleurs 6 pavillons et campus spécialisés dans le milieu de la santé qui ont pris forme dans 5 régions du Québec depuis 2020, montre l'analyse du Devoir. L'École de technologie supérieure, basée à Montréal, étalera pour sa part ses activités à Longueuil dès l'an prochain pour y offrir un programme de baccalauréat en aérospatial, tandis que l'Université Concordia a ouvert l'an dernier un campus spécialisé dans la transition énergétique à Shawinigan, à 170 km de son bâtiment principal. L'INRS s'installe à Baie-Saint-Paul. Pendant que des campus secondaires s'installent en région, l'Institut national de recherche scientifique, INRS, travaille pour sa part depuis 2022 à Baie-Saint-Paul sur un projet de centre de recherche sur les ruralités durables. À terme, entre 50 et 100 étudiants seront accueillis sur ce site où l'INRS ne s'est jamais établi auparavant. Si on s'installe à Baie-Saint-Paul, c'est qu'on ne peut pas créer un centre de recherche sur la ruralité à Québec ou au centre-ville de Montréal, où l'INRS compte déjà des campus, explique son directeur général, Luc-Alain Giraldo. La ville de Baie-Saint-Paul nous apparaissait comme un lieu excellent pour installer un centre de recherche et pour fournir des infrastructures, une population et des milieux ruraux pour former des étudiants et des chercheurs qui seraient spécialisés dans ce domaine-là. Cette initiative s'ajoute à la création, en 2021, de 5 unités mixtes de recherche dans plusieurs régions du Québec, où l'Institut embauche des professeurs pour enseigner dans les locaux d'universités partenaires. On a une dizaine d'installations principales partout sur le territoire québécois et, à terme, on devrait en avoir encore plus, entrevoit M. Giraldo, selon qui cet étalement de la présence de l'INRS au Québec entre dans sa mission d'étendre le savoir partout au Québec. C'était « Les campus universitaires satellites se multiplient au Québec », un texte de Zachary Goudreau, paru le 27 juin 2024 dans Le Devoir.
Deux ou trois jours au bureau, mauvaise question. Un dossier de Stéphanie Grammont, paru le 20 mai 2024 dans la presse. 4 ans après le début de la pandémie, le télétravail est à ce point ancré dans nos vies que son abréviation, TT, vient de faire son entrée dans le Petit Robert. Si ce terme est plus utilisé en France que chez nous, le Canada reste le champion incontesté du travail à la maison. Les travailleurs y passent presque 2 fois plus de temps qu'ailleurs dans le monde, soit 1,7 jours par semaine contre 0,9 jours dans une moyenne de 34 pays. S'ils n'en tenaient qu'à eux, les employés resteraient encore plus souvent dans le confort de leur foyer, selon le Global Survey Working Arrangement. Cela explique les tensions grandissantes avec les employeurs qui, de leur côté, veulent les ramener plus souvent au bureau. Aux États-Unis, les poursuites se multiplient contre les entreprises qui auraient mis fin au télétravail de manière discriminatoire ou antisyndicale, rapportait récemment le Washington Post. Au Canada, les grands syndicats de la fonction publique fédérale ont annoncé au début de mai qu'ils planifiaient un été de mécontentement en réponse à la volonté d'Ottawa d'imposer 3 jours au bureau au lieu de 2. Risque d'orage et pluie, de grief à l'horizon. Quel est le bon dosage? 2 journées? 3? Davantage? Aucune? Oubliez ça. On fait fausse route en se focalisant sur le nombre de journées obligatoires au bureau, comme si l'horaire dictait les processus de travail. Il serait plus logique de prendre la question à l'envers et de se demander quelles tâches devraient être accomplies au travail ou à la maison afin de favoriser la productivité? En ce moment, bien des employés établissent leur horaire en fonction de leur vie personnelle. La leçon de soccer des enfants, le rendez-vous chez le médecin, la promenade du chien. Cette flexibilité offre certainement un gros avantage pour la conciliation travail-famille, surtout pour les jeunes familles qui ont dû s'établir loin du travail à cause de l'ascension des prix de l'immobilier. Même si le travail à la maison peut aussi être une source d'isolement. Les travailleurs adorent la formule. La quasi-totalité de ceux-ci estime d'ailleurs être autant sinon plus productif, 96 % et travailler autant sinon davantage d'heures, 92 % quand ils sont à distance, selon une étude du Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations, CIRANO, réalisée auprès de plus de 10 000 Québécois. Sauf qu'il faut voir plus large que la simple question de la productivité. Il ne suffit pas que chacun fasse son boulot efficacement à la maison, car une entreprise n'est pas le simple cumul d'individus ou d'équipes travaillant en vase clos. Bien sûr, la pandémie a prouvé qu'on pouvait garder le lien grâce à la technologie, mais il y a des limites à ce qu'on peut faire par Teams ou Slack. En mode virtuel ou hybride, les interactions impromptues avec les collègues sont compromises. Vous savez, les fameuses discussions dans le cadre de porte ou autour de la machine à café, ce qui réduit les rétroactions informelles qui sont cruciales pour l'apprentissage. À l'ère du télétravail, on a vu des gestionnaires adopter une vision plus étroite, en se concentrant sur la tâche à accomplir à court terme plutôt que sur le développement des relations interpersonnelles et des compétences essentielles à long terme. Dans ce contexte, bien des dirigeants s'inquiètent de l'impact du télétravail sur la culture d'entreprise et la capacité de se renouveler. En avril 2024, le patron de Nike a justement déclaré que le télétravail avait nui à la créativité, expliquant qu'il était difficile d'arriver avec des chaussures révolutionnaires en faisant de l'innovation audacieuse et perturbatrice sur Zoom. La capacité de se renouveler passe aussi par la formation de la relève. Or, la recherche démontre que le télétravail, s'il permet aux employés expérimentés de se concentrer sur leurs tâches, peut laisser en plan les nouveaux employés qui manquent d'encadrement. Cet effet est particulièrement prononcé chez les femmes qui ont moins tendance à demander et à recevoir du mentorat quand elles ne sont pas assises près de leurs collègues. Bref, si on laisse les employés organiser leur horaire complètement à leur guise, on risque de freiner le développement des jeunes et des femmes. Et on risque de renforcer les inégalités. Mais au lieu de penser en nombre de jours au bureau, il faut pousser la réflexion plus loin, en se fondant sur des indicateurs clés pour avoir l'heure juste, par exemple, capacité de résolution de problèmes, satisfaction de la clientèle, et en réorganisant le travail en fonction des tâches qu'il est préférable d'accomplir au bureau, par exemple, remue-ménage, ou à la maison, par exemple, rédaction. Personne n'a la recette parfaite. Tout est une question de dosage. On ne balayera pas du revers de la main la flexibilité que la pandémie nous a apportée. Mais les entreprises doivent aussi pouvoir atteindre leurs objectifs à long terme. Les deux peuvent se combiner pour que le travail hybride soit le meilleur des deux mondes, pas l'inverse. C'était Deux ou trois jours au bureau, mauvaise question. Un dossier de Stéphanie Grandmont, paru le 20 mai 2024 dans La Presse.
La planète, toujours en tête, une chronique d'Alissa Parker, paru le 5 juin 2024 dans L'Eau vive, en Saskatchewan. En mai 1990, Yves Lusignan publiait un article dans L'Eau vive intitulé « Les Canadiens sont très préoccupés par l'environnement ». Une trentaine d'années plus tard, les études menées par le gouvernement du Canada montrent que c'est toujours le cas. l'inquiétude environnementale continue d'être la plus grande préoccupation pour les Canadiens, au point où 88 % des personnes sondées disent être affectées par les effets négatifs du changement climatique. Selon les données de Statistique Canada datant de 2022, cette inquiétude se traduit par un changement des habitudes de consommation. En effet, 80 % de la population dit être sensible à la durabilité et aux emballages écologiques. Cependant, pour les 30 % de Canadiens qui ne cherchent pas à consommer de la nourriture qui provient de sources durables, c'est le prix qui constitue la plus grande barrière. Une angoisse grandissante. En 1990, on parlait surtout des effets de la pollution sur la santé publique. Aujourd'hui, il faut y ajouter les événements météorologiques extrêmes, comme les feux de forêt, la chaleur extrême ou encore les inondations. Face à cette menace, les citoyens canadiens ne jouent pas à l'autruche et sont les premiers à reconnaître qu'ils ont individuellement une part de responsabilité dans la protection de l'environnement, peut-on lire dans le rapport « Perception du public à l'égard des effets des changements climatiques sur la santé au Canada 2022 ». En outre, selon une étude réalisée par l'Association nucléaire canadienne, ANC, et Abacus Data, les Canadiens croient que le gouvernement fédéral devrait jouer un plus grand rôle dans la protection de l'environnement. Surtout, la majorité pense que ce sont les industries privées qui sont la cause principale de la pollution dans le monde. Mais la population reste divisée sur la question du pétrole et de la distribution des énergies fossiles au sein du pays. Dans une étude du Centre de recherche de l'opinion publique, CROP, les 18-34 ans sont plus portés que les 55 ans et plus à penser que la civilisation actuelle est en train de tout détruire sur la planète. Toutefois, la proportion déclarant faire des changements dans leur vie pour réduire leur impact environnemental passe de 79 % chez les 18-34 ans à 92 % chez les 55 ans et plus. En terminant, l'autre différence entre 1990 et 2024 est évidemment la présence d'Internet. Avec une multitude d'informations disponibles aujourd'hui, il est plus facile d'être sensibilisé à la question, mais il est aussi plus difficile de trouver des sources crédibles. C'était « La planète toujours en tête », une chronique d'Alissa Parker, paru le 5 juin 2024 dans L'Eau vive en Saskatchewan.